Dieu vous bénisse. Salut dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, allô? T'as rien donné? Comment ça t'as rien donné? C'est pas sérieux ça. La polytech maintenant. Félicitations ma chérie, félicitations. Très bien, je suis vraiment heureux. Fier de toi. N'est-ce pas maman? Du beau travail, ça, ma fille. Nous allons ce soir en lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er. Nous allons prier d'abord. Père céleste, te sommes infiniment reconnaissants ce soir de ce que tu aies permis que nous puissions nous réunir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, sachant que un tel rassemblement suscite de bénédictions de par ta présence. Aussi, te remercions pour ta présence parmi nous. Pour être indigne de pouvoir te recevoir, toi devant qui les séraphins, les êtres célestes, chantent nuit et jour ta grandeur, ta magnificence. Cela nous remplit de reconnaissance envers toi. Nous te remercions aussi, Père, pour la grande victoire que tu as donnée à notre fille ici présente, à Marie-Élise. Vraiment, tu vois la joie qui rebondit dans nos cœurs. Que tu sois béni. Merci pour cette grande bénédiction que tu as répandue dans la maison de mon frère. Et nous te sommes reconnaissants aussi pour cela. Ça fait partie des bienfaits que nous comptons, dans nos moments difficiles. Et c'est vrai, les bienfaits de Dieu, le nombre en est très grand. Maintenant, nous voulons écouter ta parole. Donne-nous la concentration qu'il faut, les oreilles qu'il faut, selon que ta parole est apportée à ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que pour entendre l'Esprit, il faut des oreilles particulières. Et toi, tu es Dieu. Tu peux nous en fournir. Pour que ce qui est inaccessible, parce que ton langage est particulier, les pharisiens ne comprenaient rien. Nicodème a eu du mal. Pauvres enfants, parfois même des illettrés comme Pierre, tu leur as fait la grâce de comprendre ces choses. Et même Pierre avait des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Parce que pendant qu'ils étaient réunis autour de toi, tu leur as dit Heureuses sont vos oreilles qui entendaient ces choses. Merci de nous assister encore ce soir. Parle-nous, nous t'écoutons. Bénis ta parole, pardonne-nous nos péchés. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Donc, 2 Thessaloniciens, chapitre 1er. Trois premiers versets. Paul, Sylvain et Timothée, tous les trois, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvons nous asseoir. C'était même un sujet pour lui de se glorifier dans les églises parce qu'ils avaient de la persévérance et ils avaient la foi. Il dit au verset 3, « Votre foi fait de grands progrès. » C'est le sujet. La question est de savoir si la nôtre, notre foi aussi, fait des progrès. La foi ne peut pas rester statique. Progresser, ça veut dire quitter un niveau, aller à un niveau supérieur. La foi, elle est agissante, comme il nous est dit dans Galates 5, verset 6, agissante par l'amour. Elle agit, mais elle ne reste pas au même niveau. Les disciples, dans Luc 17, ont fait cette demande à Jésus-Christ, alors qu'ils avaient déjà un certain niveau. Parce que dans Jean 6, vous pouvez déjà aller dans Marc, dans Luc 17, mais dans Jean 6, Pierre dit ceci, au verset 68, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, tu avais la foi, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Malgré qu'ils avaient cette foi-là, qu'ils avaient cru que le Seigneur était le Christ, malgré cela, ils font encore cette demande au verset 5 du chapitre 17 de Luc. Il dit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Donc, ça bouge. En plus, la foi des Thessaloniciens, elle accomplissait une œuvre. On voyait que les Thessaloniciens avaient la foi. C'est-à-dire que, selon ce que dit Jacques, Lorsqu'on a la foi, les œuvres qu'on accomplit, la foi nous conduit à les accomplir. Paul lui dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la foi. Si on a la foi, on fait des œuvres de la foi, des œuvres d'Abraham. Alors, 1 Thessaloniciens 1er, verset 2, encore une fois dans les mêmes termes, nous rendons continuellement grâce, n'est-ce pas, à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi. Dites amen. Le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. On arrive au chapitre 4 de Thessaloniciens, constatons que passer par des afflictions, passer par des moments difficiles. Et le progrès que nous faisons dans la foi, le progrès que nous manifestons dans la foi, ce progrès doit être évident pour tous. Vous n'avez pas à forcer, vous n'avez pas à vous débattre pour ça, mais ceux qui vous regardent savent, ils voient que vous avez la foi. Ça doit être évident. Paul dit à Timothée, 1 Timothée 4, verset 11, déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Modèle en parole. Amen. Un modèle en conduite. Un modèle en amour, un modèle en foi. Ah, j'aimerais bien avoir foi comme Père Timothée. Parce que il n'a pas passé des moments faciles. Si l'apôtre l'exhorte en disant que personne ne méprise ta jeunesse, on avait certainement souvent tendance à le regarder de haut parce qu'il était très jeune. Ouais. Hier, il y a un frère qui m'a appelé. Il m'a demandé d'aller parler pour lui à d'autres frères. Moi, je me suis pas allé leur parler, ils ne te mangeront pas. Il m'a dit non. Moi, ils me considèrent comme leur petit frère. Ce qui fait, ils ne m'écouteront pas. Benoît, est-ce que tu m'écoutes? Oui, oui, voilà. Et pourtant, je le considère comme mon petit frère. Mais le frère m'a dit, il me considère comme mon petit frère. Pas lui, hein. Le frère qui m'a appelé hier. Mais toi, si toi tu leur parles, ils t'écouteront. Moi, je leur parlerai, mais ils t'écouteront aussi. T'en fais pas. Je crois qu'ils t'écouteront. Oui. Et Timothée avait ce problème. Tel point que Paul doit lui dire que personne ne méprise ta jeunesse. Et c'est d'ailleurs à Paul, à Timothée, que Paul va dire, dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, forfarons, hautains. À lui. Il dit à Timothée, parce que justement, Timothée subissait ça. Et Paul devait chaque fois le remonter. En foi, en pureté. Pour les jeunes, c'est très important. Timothée était ministre. Il connaissait la parole, les Saintes Écritures, qui lui avaient été enseignées déjà par sa grand-mère. Mais Timothée n'utilisait pas ça pour épater les gens, ou pour détourner les gens. Mais vraiment en toute pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Amen. Lis pour être un modèle, pas pour épater. Allez détourner les autres de la bonne voie. Parce qu'il y a une connaissance diabolique. Hein. Vous savez ça, hein. Il y a la connaissance divine et à la connaissance diabolique qui consiste à faire tomber quelqu'un. À l'exhortation, à l'enseignement. Et nous avons vu ici dimanche que l'enseignement peut être comparé à du levain. Certains enseignements. Hérode, de par son enseignement, il enseignait un adultère. Par son natif, par sa conduite. Vous voyez ? C'était quelqu'un d'important dans le pays et il enseignait l'adultère de par sa conduite. Les pharisiens, ils enseignaient autre chose. Et ce qui est bizarre, c'est que ça finit toujours par avoir l'effet du levain. À faire gonfler la pâte. Ça a des effets. Des effets, quand c'est diabolique, ça a des effets néfastes. Ça n'a pas l'air d'être une faute, et pourtant c'en est une. Explique-toi la lecture. À l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi. Si Dieu t'a fait un don, ne le néglige pas. Et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents. Pour tous, déterminant ça. Que l'on voit que réellement le frère Timothée progresse. Dans ce cas-là, lorsque la foi progresse, c'est un sujet d'action de grâce. Et Paul dit deux fois, il dit, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, et dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, il dit, je rends continuellement grâce à Dieu. Je remercie Dieu sans discontinuer. Continuellement. Lorsque nous voyons des jeunes gens dans l'Assemblée progressent, s'ils progressent, c'est un sujet d'action de grâce. Pas seulement les jeunes gens. Si toute l'Assemblée progresse dans la foi, c'est un sujet d'action de grâce. Parfois, c'est vrai qu'elle peut progresser. Attention, elle peut défaillir aussi. Le contraire de progresser, c'est reculer. Ou être abaissé, quitter le niveau supérieur, aller au niveau plus bas, au niveau plus bas. Ou alors stagner au même niveau. Il n'y a plus de progrès. Là, il n'y a pas de, quand ça stagne, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de recul. C'est toujours au même niveau. Et quand les disciples ont gardé cela toujours au même niveau, ils se faisaient souvent reprendre par le Seigneur. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Et pourtant, ils avaient chassé des démons, ils avaient prié pour des malades, ils avaient fait des choses pour lesquelles ils se sont réjouis, mais il arrivait aussi souvent qu'ils reçoivent des réprimandes. Disons donc que la foi, si elle peut progresser, la foi peut défaillir. Défaillir, ça veut dire que inefficace, défaillant, n'obtient pas de résultat. Et notamment, ça défaille quand? Au moment où, dans la vie, nous sommes criblés. Secouer. Les secousses de la vie peuvent avoir un effet sur notre foi. Et notre foi ainsi défaillir. Luc 22. Verset 31, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras affermi, convertis tes frères. » C'est que si elle peut défaillir à cause de secousses, pour que ça n'arrive pas, nous voyons chez les Thessaloniciens, dans 1 Thessaloniciens 1, nous voyons qu'ils avaient beaucoup d'amour entre eux. Amen. Et le fait d'avoir beaucoup d'amour entre eux, ça les poussait à prier les uns pour les autres. Quand vous aimez votre prochain, vous priez pour lui. Et le Seigneur, justement, nous montre, justement, le remède pour que la faille ne défaille pas. Que nous puissions prier les uns pour les autres. Surtout prier pour ceux qui sont criblés. Lorsque des requêtes arrivent ici, prions pour le frère Ambroise, parce que il a de grands combats chez lui. Tel combat. Ça, c'est dimanche passé. Le dimanche prochain, après-demain, prions encore pour le frère Ambroise, encore d'autres combats. Des secousses. Le frère part de crible en crible. Il est bon de prier pour lui. Et nous savons, tel que nous sommes ici, nous savons au moins par quel crible les uns et les autres sont passés. Ça laisse des traces, ces cribles-là. Et il est bon de prier pour eux. Il ne faut pas attendre que le frère vous dise « ça ne va pas ». La sœur vous dise « ça ne va pas ». Vous savez ce qui s'est passé. Vous savez ce qui est arrivé. Dans vos prières, faites continuellement mention de dans vos prières. Rendez continuellement grâce à Dieu de voir que le frère ou la sœur tient le coup. Amen. Donc, quand les cribles accablent quelqu'un, le remède, c'est quoi? C'est la prière. Paul priait ardemment pour les Thessaloniciens. Et ça, c'est dans 1 Thessaloniciens 3. Verset 7. En conséquence, frères, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été consolés à votre sujet, à cause de votre foi. Car maintenant, nous vivons. Il s'agit de lui. Puisque vous demeurez ferme dans le Seigneur. Quelles actions de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu, à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu. Nuit et jour, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir et de compléter ce qui manque à votre foi. Il t'amène à ça. Nuit et jour. D'où tu as entendu sa prière. D'où dans 2 Thessaloniciens, nous avons lu cela, chapitre 1er, nous voyons que leur foi a progressé. Parce que la foi est un don de Dieu. Si nous prions que Dieu la donne à un frère, c'est une bonne demande, parce que nous sommes sauvés par la foi. D'où le progrès qu'on enregistre. Maintenant, ça peut aussi arriver qu'on ne peut plus progresser du tout. Ça peut arriver. Ça arrive quand ça? Donc, où la foi va même subir un recul. Mathématicien, frère qui est là-bas derrière, vous diront, c'est un progrès négatif. Ceci arrive lorsqu'on s'oppose à la vérité, lorsqu'on s'oppose à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Dans 2 Timothée 3, vu mercredi, Les derniers jours sont des jours difficiles. Les deux derniers millénaires ici. Il y aura des temps difficiles. On vient de le dire, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs et ainsi de suite. Insensibles, ingrats, irreligieux. Verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. On a vu que le remède, c'était de s'éloigner de ces gens-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse. Moïse était du temps de Jannès et Jambrès. Moïse était le prophète de l'âge. Lorsqu'on s'oppose au prophète de l'âge, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés, rejetés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, dit Amen à ça. Car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre, quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnu certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. La foi, c'est très important. Quand je venais de croire en ce message, un des premiers grands messages que j'ai entendu, c'était sur la foi. Lorsqu'on s'est fait baptiser, baptême d'eau, on prenait un engagement, n'est-ce pas? L'engagement avoir une bonne conscience envers Dieu. C'est ce que dit Pierre. Que désormais, devant la parole de Dieu, vous aurez bonne conscience, voulant la pratiquer, non seulement l'observer, mais la mettre en pratique, la vivre. Pas une conscience qui rejette, pas une conscience qui doute tout le temps, mais une conscience qui reçoit. Bonne conscience. On peut commencer, on va lire dans 1 Pierre 3. Verset 21. L'eau du temps de Noé, du déluge. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps. Le baptême ne vous purifie pas de vos souillures, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant, pardon, vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Quand vous sortez des eaux du baptême, vous avez ce zèle. tellement votre conscience est bien disposée. Vous avez beaucoup de zèle, mais au travers des problèmes de la vie, il peut arriver malheureusement que l'on perde cette bonne conscience. Ça va avoir une répercussion sur votre foi. 1 Timothée, chapitre 1er. Ayez toujours cette bonne conscience envers Dieu. C'est toujours la parole de Dieu qui a raison. Toujours. Ne discutez pas. Ne contestez pas. 1 Timothée, chapitre 1er. Verset 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, d'après les prophéties, tu combattes le bon combat. Et nous tous, nous savons que le bon combat, c'est le combat de la foi. Amen. En gardant la foi et une bonne conscience, il faut la garder, cette bonne conscience. Maintenant, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont perdu la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc, ayant perdu la foi, d'ailleurs c'est ce qui arrive toujours, lorsqu'on perd la foi, on blasphème. Sombre dans le blasphème. Et si on perd la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Ça ne sert même à rien de lui demander quoi que ce soit. Dieu honore celui qui a la foi. Du moins, il honore votre foi. Dieu peut être admiratif à votre foi. Et je vous dis quelque chose, c'est pour ça qu'il aimait beaucoup Abraham. Abraham, c'était un homme comme vous et moi. Abraham, Dieu lui dit, donne-moi ton fils, ton unique. Alors que toute la vie, toute sa vie, il aspirait à avoir ce fils. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Maintenant, Abraham savait que de son état à lui, et de l'état de Sarah. Si Dieu pouvait lui donner un fils au travers de, par Sarah et à lui, c'est que ce Dieu-là est capable que même une fois mort de vous ressusciter. Il a cru en cela. Le fait de croire en cela fait que Dieu admire ça, que vous croyez qu'il peut ressusciter. Il demande à Marthe, lui dit, je suis la résurrection et la vie, ton frère ressuscitera. Il lui pose la question, crois-tu cela? Elle dit, oui, je crois, Seigneur. L'attitude de Christ, c'est l'attitude de Dieu, si Dieu est un homme. Lorsque Dieu se fait homme. Et si on fait preuve d'une grande foi, Dieu vous admire. Il vous exauce. Dans Luc 7, il vous aime même. Que cet homme puisse croire cela, Jésus dit, même en Israël, après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « C'est vrai, c'est un Romain, mais il mérite que tu lui accordes cela. » Il t'amène à ça. Car il aime notre nation. C'est un peu une prière que font ses disciples à Jésus-Christ pour que Jésus entende la supplication, pour que Jésus exauce la supplication du centenier. C'est comme si vous aviez un besoin et que moi, j'ai accès à lui. Je demande, Seigneur, exauce mon frère, exauce ma sœur. Mon frère mérite que tu l'exauces, car il t'aime. Il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue, un endroit où nous pouvons aller invoquer. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais je ne suis qu'un Romain, je suis un chien, comme les païens. » Parfois, la Bible les traite des chiens. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va, sans poser de questions. J'amène à ça. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et Dieu aime ça. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par les centeniers trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Est-ce que vous croyez qu'il peut le faire? Si nous pouvions avoir cette foi-là. Pour en arriver là, il faut que notre foi progresse. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ne nous éloignons jamais de cette parole. Si nous voulons que notre foi progresse, entrons dans cette parole. Demeurons-y. N'en sortons pas. Soyons toujours là, suivant les conseils que nous donnent les Écritures. David dit, le psaume premier, n'est-ce pas, l'homme qui médite cette parole, il est heureux qu'il la médite nuit et jour. Satan viendra vous dire, vous perdez du temps. Vous avez sommeil. Vous devez faire telle ou telle chose. Vous savez, le fait de méditer nuit et jour n'empêchait pas David de faire le travail qu'il devait faire. Il nourrissait le troupeau. Il le conduisait dans les verts pâturages. Ce que lui disait que l'Éternel faisait avec lui, c'est ce que lui faisait avec le troupeau, avec les brebis de son père. Et quand un ours ou un lion venait pour prendre une brebis, il avait la foi pour s'en prendre à l'ours ou au lion à main nue. Il avait la foi. Il avait la foi pour s'en prendre à Goliath. Et il nous donne ici le tuyau, comme on dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est un tuyau qu'il nous donne. Hein, Marie-Élise, tu n'as pas encore quitté le monde des tuyaux, hein. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Vous voulez avoir la foi comme David ? Faites ce qu'il vous dit de faire ici. C'est poussé par le Saint-Esprit qui décrit ça. Dieu est en train de nous expliquer comment, pourquoi est-ce qu'il a béni David là comme ça. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Les méchants, ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la connaissent, qui la récitent même, mais qui ne la mettent pas en pratique. Les méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène la ruine. C'est un tuyau formidable que David nous donne. Ce n'est pas du tout une perte de temps. Lisez les psaumes. Lisez la parole. Dieu fait des choses parfois que nous ne comprenons pas. Alors, cela peut sembler être quelque chose de mauvais, mais c'est une très bonne chose. Il y a une jeune femme, je termine, une jeune femme qui a échappé à la catastrophe de la semaine passée, l'avion d'Air India qui est tombé. Je ne sais pas, je ne connais pas son témoignage. Mais cette femme, elle a échappé à cette jeune femme, c'est une jeune fille, elle devait absolument rentrer à Londres. Absolument. Et elle a quitté chez elle à temps. Mais les embouteillages l'ont retenu en chemin. Tel point que quand elle est arrivée à l'aéroport, on n'enregistrait plus le départ. Elle est arrivée juste 10 minutes avant l'embarquement. La peste d'avoir loupé l'avion. Mais je ne sais pas quelle est sa relation avec Dieu, mais Dieu a eu pitié d'elle. C'est après l'accident qu'elle a réalisé la grâce qui lui a été faite. Moi, nous échappons à des choses, nous ne savons pas. Ici, elle a su parce que ça a eu un grand retentissement. Et parfois, il y a de ces choses qui se passent qui n'ont pas vraiment de retentissement, mais on y a échappé. Si Dieu veut qu'on tombe dans un embouteillage, gloire à Dieu. Il y a peut-être quelque chose là-bas devant où Dieu veut que nous puissions y échapper. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que notre foi fasse des progrès. Pour pas que ça stagne juste là. Mais que notre prière soit: Père Benoît, augmente-nous la foi. Prions, Seigneur. Te remercions, Seigneur, pour ce don merveilleux que tu nous fais, de la foi en toi. Te remercions de la foi que tu as donnée à nos enfants. Te remercions de les voir ainsi grandir, s'épanouir dans la foi. Te remercions pour cette grande victoire que notre fille a acquise. Certainement par ton aide. Te remercions jamais assez. Nous en avons encore d'autres qui viennent derrière et nous te prions pour elles. Que Satan ne vienne pas les tromper disant que tu perds du temps. Au contraire, c'est du temps de gagner. Nous rendons grâce pour cela. Nous voulons le faire comme Paul le faisait continuellement. Cela ne l'empêchait pas de travailler. David n'était pas empêché de travailler. Que notre travail ne soit pas un prétexte. Et nous te demandons pardon pour tous les prétextes, surtout moi, que j'ai utilisé. Prends-nous par la main. Que tu répandes l'Esprit Saint sur tes enfants, parce que lui sonde les choses mêmes de Dieu. Et il sait de quoi nous avons besoin, qu'il puisse exprimer ses soupirs auprès de toi pour nos besoins. Pendant que tes enfants, pendant que nous serons en prière cette nuit, eux qui seront ici, ceux qui seront ailleurs en prière, que tu inspires les prières. Que tu bénisses chacun. Que ta grâce surabonde à cause de nos péchés. Ceux qui doivent rentrer, que tu les raccompagnes. Ceux qui restent, reste avec eux. Ceux qui viendront, sois avec eux également. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen.